Jean-Philippe, j'ai une question pour toi.
Ouais.
Est-ce que t'aimes les champignons?
J'ai longtemps pas aimé les champignons quand j'étais jeune. Là, je
Oui.
les aime. En fait, je les aime peut-être un peu moins à cause de ce dont on va discuter aujourd'hui, mais j'ai longtemps pas aimé les champignons pour une toute autre raison.
OK. Pas
Puis
parce que c'est...
l'argument de vente, en fait, qui a fini par avoir raison de moi, c'était, je me souviens plus qui m'avait dit ça, mais quelqu'un m'avait dit, mange des champignons, puis comme Mario, tu vas grandir. Et
Ce qui n'est pas vrai,
Jean-Philippe,
mais bon.
non, et Jean-Philippe, 8 ans, a mordu à l'hameçon
Ah,
et
voilà.
c'est ça.
Voilà. Mais écoute, je suis content qu'on se parle aujourd'hui. D'abord, bienvenue tout le monde à Rembobinage, donc votre podcast cinéma-télévision, bien sûr. Épisode 82. Donc, comme je disais, Jean-Philippe, content de t'avoir avec moi parce que on a un sujet assez intéressant aujourd'hui. Bien, évidemment, tous nos sujets sont intéressants. On va pas non-plugger notre propre émission, mais on a une approche un peu différente aujourd'hui parce que ce dont on va parler existe déjà sous une autre forme. Des fois, on va parler de films, de séries télé qui viennent de bandes dessinées, de livres. Beaucoup plus rarement, on va parler de produits qui viennent du monde du jeu vidéo. Mais c'est le cas aujourd'hui. Donc, on va parler évidemment la première saison de The Last of Us qui vient de se terminer sur HBO. Donc, Last of Us qui est évidemment, comme je disais, jeu vidéo sorti en 2013 par Naughty Dog, qui est un studio, pour les gens qui connaissent un peu les jeux d'aventure, jeux d'action, Naughty Dog, c'est un studio qui est assez bien connu. On fait la série, évidemment, Last of Us, on fait Uncharted, on fait Red Dead Redemption, je pense.
Red Dead Redemption, non,
Non, c'est un
c'est
autre studio.
Rockstar.
Ah oui, excuse-moi. Bon, bref, j'ai confondu, mais bref, Uncharted, la série Uncharted, la série The Last of Us, deux séries bien établies, surtout du côté des consoles, mais ça commence à venir du côté du PC. Donc, d'ailleurs,
Deux
The Last of Us, oui.
séries de jeux vidéo qui sont qui ont été développées par Sony, en fait, donc
Oui.
l'exclusivité était à la PlayStation.
Effectivement, mais donc ça s'en vient tranquillement pas vite sur le PC. Je sais qu'Uncharted 4 est sorti sur PC il y a quelques mois maintenant. The Last of Us Part 1, donc le premier, s'en vient sur PC à la fin du mois de mars, d'ici une dizaine de jours. Donc, on est là aujourd'hui, on va parler, comme je disais, de la série télé The Last of Us. Est-ce que toi qui as joué aux jeux vidéo, et maintenant, bon, est-ce que tu avais joué à la sortie?
Non, ben en fait, j'avais joué au. C'est quand que j'ai. Je pense que c'était avant la pandémie ou au début de la pandémie de
Un bon
COVID.
timing.
Ouais, c'était thématique. J'avais commencé le 1, la version remasterisée là, qui était sortie pour la PlayStation 4.
Ouais.
Puis je m'étais rendu comme. J'avais rage quit en bon français. Juste à la fin. Il m'en
OK.
restait pas tant que ça à finir, puis j'avais arrêté. Puis là, quand la série a commencé, j'ai écouté les premiers épisodes, puis là, ça marchait avec la partie du jeu avec laquelle j'avais déjà joué. Mais là, je me suis dit, hey, il faudrait que je finisse le jeu avant que la série finisse. Donc, j'ai repris du début le jeu, j'ai rejoué jusqu'à la fin. Puis là, j'ai persévéré jusqu'à la fin et j'ai terminé le jeu. Donc, ça s'est
OK.
fait assez récemment.
Ben écoute, tu vas être mon groupe de contrôle aujourd'hui, parce que moi, j'ai pas joué au jeu. Moi, je suis un homme de PC depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, moi, la dernière console que j'ai eue qui était, disons, dans les temps, c'est-à-dire, j'ai eu au
Un
moment où
Atari.
était... Pardon? Non, mais quand même, je pense même pas si vieux que ça. Non, mais la dernière console que j'ai eue qui était d'actualité, si on veut, c'était le Super Nintendo. Après ça, j'ai toujours été très en retard sur les consoles. Et tu vois, récemment, il y a une couple d'années, on m'a offert une Xbox pour un test. Une Xbox, je sais plus, One, je pense. Mais depuis ce temps-là, j'ai pas acheté de PlayStation, de Nintendo Switch, quoi que ce soit. Bref, on n'entrera pas dans ce débat-là, on n'est pas là pour ça. Mais bref, donc j'ai pas joué à The Last of Us sur PC. Donc j'ai pas du tout de
Préjugé.
préconception, de
Ouais,
préjugés, de préconception. J'ai vu des séquences de jeu,
c'est ça.
mais j'ai pas joué du tout. Donc, comme je disais, tu vas être mon groupe de contrôle à savoir si, ben d'abord, évidemment, je veux savoir si t'as aimé la série télé, mais aussi est-ce que c'est fidèle au jeu,
Ben,
tout ça. Ben,
déjà
on
le
aura
jeu.
l'occasion d'en reparler peut-être dans quelques minutes avant de vraiment plonger là-dedans. Si tu permets, je vais peut-être faire un bref résumé de ce qui se passe dans la série télé. Puis, fort probablement que dans cet épisode-ci, il va y avoir des divulgateurs. je pense qu'on c'est un peu dur d'y échapper si on peut pas aborder certains aspects du scénario, parce que, bon, notamment des choses qui, moi, m'ont franchement agacé dans cette première saison-là. Peut-être toi aussi, on verra bien. Mais donc, résumé de ce qui se passe, donc de l'intrigue dans The Last of Us, tu disais, bon, tu avais commencé à jouer au début de la pandémie. Je disais, bon, c'est dans la thématique, c'est que The Last of Us, c'est une épidémie de champignons. En fait, ce sont des zombies, là, bon, mais au lieu d'être causés par un virus quelconque, ben en fait, c'est un genre de virus. En tout cas, au lieu d'être un virus, c'est un champignon qui transforme les gens en sorte de zombie ou champignon.
Un champignon qui existe pour de vrai, d'ailleurs. Oui. Je pense que c'est un point quand même assez intéressant, là, pas pour une fois, mais c'est pas une espèce de mystérieux virus dans un laboratoire de la Umbrella Corporation. Là, oui. Mais c'est vraiment inspiré d'un vrai champignon qui zombifie des fourmis.
Oui, effectivement. Puis bon, quand la série commençait à sortir, peut-être un peu juste avant, on a eu une série d'articles scientifiques. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? Et je vais divulgacher ça tout de suite. J'ai une bonne amie qui travaille à la santé publique fédérale que j'ai vu récemment qui disait « c'est pas possible, c'est impensable ». Et surtout, si jamais ça arrive, si jamais ça se produit, sortez les lance-flammes ou provoquer une fièvre chez le patient, puis le champignon va mourir. Donc, c'est faites-vous-en pas, ça n'arrivera pas demain matin.
On n'aura pas besoin de zombies chauds pour provoquer une fièvre. On sort le lance-flammes tout de suite.
Ouais. c'est comme dans The Thing, le film de John Carpenter. Ouais. Pour être bien certain de te débarrasser du méchant, tu sors le lance-flammes. Voilà. Donc, mais bref, dans la série, il y a une espèce d'infestation d'un champignon qui s'est adapté au corps humain avec les changements climatiques. Et ce qui fait en sorte que, au lieu de commencer à un seul endroit, par exemple, dans le monde, puis là, ça se répand peu à peu, ça commence à peu près partout en même temps. Là, il y a une sorte d'explication de c'est dans une farine, puis les gens ont mangé la farine, puis nanana. Bon. Techniquement, j'imagine que la farine était cuite, ça aurait tué le champignon, mais c'est une autre affaire. On n'est pas là pour parler du côté réaliste. Mais bref, donc, les gens, rapidement, ça devient chaos et on suit un type qui s'appelle Joel, qui est un père de famille du Midwest, là, qui est un gars de la construction, un vrai mâle américain avec son pick-up et qui se retrouve là-dedans avec sa fille, donc, et son frère. Et essaie de survivre. On a des séquences là, du début, premier épisode. C'est vraiment, ça commence. C'est vraiment les gens, la panique commence et essaie de s'en sortir et tout ça. Et éventuellement, on suit ce même Joe 20 ans plus tard dans ce qu'on appelle une zone de quarantaine, c'est-à-dire une espèce de place forte dans une ancienne métropole américaine. Et éventuellement, Joel va être appelé à escorter une autre jeune femme, au lieu de pas sa fille, mais une autre jeune femme qui s'appelle Ellie, et Ellie qui a, semble-t-il, une immunité contre l'espèce de maladie, maladie qui tue généralement en quelques jours, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas rien. Et bref, on suit les péripéties de Joel et Ellie à travers les États-Unis, avec des méchants zombies champignonesques et des méchants humains. Voilà. C'est un peu, je pense que j'ai bien résumé quand même. écoute, donc c'est ça. J'aimerais t'entendre d'abord. Est-ce que toi, t'as aimé la série sur HBO?
J'ai adoré. C'est. J'ai vraiment aimé. Puis c'est ça que j'allais dire tout à l'heure, là, avant qu'on fasse le résumé. Là. Déjà, à la base, le jeu vidéo est probablement un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma vie.
OK.
Puis il y a beaucoup de critiques qui vont en ce sens, là, qu'il y a des critiques dithyrambiques de ce jeu-là. Donc, je pense que les attentes étaient très élevées pour la série télé. Puis, je dirais que ma principale source de joie dans cette série télé-là, c'est que même après avoir joué au jeu, la série fait pas que copier bêtement le jeu et ne s'en détourne pas de manière... On n'a pas cherché d'un côté à être trop fidèle au point où est-ce qu'on tue l'initiative puis la surprise, mettons.
Oui.
Puis à l'autre extrême, on n'a pas cherché à aller vraiment à l'opposé du jeu puis à prendre des choix vraiment qui cadreraient pas avec le jeu. On a vraiment pris le jeu et on a construit dessus. C'est sûr qu'il y a des séquences qui sont plan par plan, là, fidèles au jeu qui était déjà très cinématographique là, comme jeu vidéo. Donc, c'est sûr qu'il y a des séquences qui sont très fidèles, mm-hmm. mais il y a une construction qui se fait autour de ces scènes-là qui bonifie ce qu'on retrouverait dans le jeu, dans le fond.
Ben, écoute, comme je te dis, moi, j'ai pas joué au jeu, bien sûr, mais les séquences que j'ai vues, ça ressemble, on donne largement des choses qu'on voit aussi dans la série. C'est sûr qu'on a moins, je pense, moins accès ça sur les combats, sur la question de, ben, évidemment, il y a des combats, il y a des affrontements dans la série télé, ça se tire dessus, il y a des zombies, bon, tout ça. Mais on n'est pas, par exemple, on voit pas Joel fabriquer des objets. Je sais que dans le jeu comme tel, faut beaucoup fabriquer des objets, on ramasse beaucoup de choses.
Ça serait un choix scénaristique assez douteux, là, parce que c'est un peu ça aussi que j'apprécie, c'est que les codes narratifs du jeu vidéo puis les codes narratifs de la télé, c'est pas les mêmes. Là.
Fait que non.
Tu peux pas miser sur les mêmes éléments. Puis tu sais, tu disais, on a moins misé sur les séquences d'action. Tu sais, c'est pas un jeu vidéo d'action, je dirais. Là. C'est pas... c'est un jeu vidéo, oui, ça se passe dans le cadre d'une apocalypse de zombies, mais pour avoir rejoué justement récemment puis m'être replongé dedans, c'est quasiment plus un drame humain, puis la série télé retranspose ce sentiment-là aussi. Ça se passe dans une apocalypse de zombies, mais c'est pas quelque chose qui fait particulièrement peur. Là. C'est sûr que les créatures peuvent être effrayantes. Là. Je conseillerais pas de faire écouter ça à un enfant. Ça reste une histoire d'humain, là, de relations interpersonnelles. Puis je m'excuse s'il y a du bruit en arrière, j'ai mon chien avec moi. Donc à nos auditeurs, tout de suite, si vous entendez des drôles de bruits derrière moi, c'est pas un zombie, c'est mon chien.
Ben écoute, on va évidemment lui pardonner, un chien, bon, c'est adorable, des chiens toujours. C'est drôle, tu parlais de choses qui font peur. Moi, ma copine a écouté... on a écouté la fin ensemble, mais elle a écouté des épisodes, certains épisodes séparément. Puis je me souviens, je suis arrivé dans son bureau avec une barquette de champignons blancs pendant qu'elle écoutait la série. Fait que... un peu comme si elle allait attaquer. Mais je trouve ça bien intéressant, la question de faire peur ou non. Puis c'est la question de la structure narrative, parce que... puis c'est toute une réflexion que j'ai, moi, par rapport à la série. C'est que, d'abord, moi, je l'ai aimé dans le sens où, sur le plan technique, j'ai rien à redire. Mm-hmm. C'est HBO, rarement j'ai vu HBO se planter. En tout cas, depuis que j'écoute du HBO, même Game of Thrones, dans les pires années, c'était, sur le plan technique, c'était bien fait. Mais bon, sur le plan scénaristique, c'est autre chose, mais ça, c'est pas nécessairement la faute du bio. Donc, pour moi, The Last of Us, c'est bien filmé, les décors sont beaux, les costumes, bon, les costumes, souvent, c'est du linge un peu scrap parce que ça fait 20 ans que personne a fabriqué de nouveaux vêtements, largement.
Mais... Le running gag qui revient aussi de l'espèce de chemise de farmer là, que Joel, dans cette série-là, la porte. Le personnage principal de Walking Dead porte une chemise similaire. Ouais. On dirait que toutes les séries post-apocalyptiques, les hommes, on porte toutes la même chemise, un peu western, là, puis...
Ben, écoute, moi, je te dis, si jamais il y a un apocalypse, la première affaire que je paye, c'est l'équipeur.
C'est ça, ouais. Ouais.
Garde en tête la question de Walking Dead. J'ai envie d'en reparler tantôt. Bref, juste terminer avec la question technique, parce que ça nous amène aux acteurs. Pedro Pascal, on l'avait vu dans Game of Thrones, quelques épisodes, évidemment dans Mandalorian.
Narcos,
que j'ai pas vu, mais qu'effectivement joue là-dedans. Puis là, évidemment, dans Mandalorian, il joue le papa de remplacement de Grogu. Dans The Last of Us, joue le papa de remplacement de Ellie. Ellie, l'actrice Bella Ramsey, qu'on avait vu dans Game of Thrones, qui était très bonne aussi. Donc, côté choix des acteurs, c'est très bien. Moi, ce que je te dirais, c'est ce qui m'a vraiment agacé, c'est que, bon, d'abord, la question des zombies, est-ce que la mode est passée, elle est pas passée? On t'a parlé de Walking Dead. Tu sais, le jeu de Last of Us, là, je fais un long détour peut-être, là, mais le jeu de Last of Us sorti en 2013, déjà 2013, The Walking Dead, ça faisait, je pense, quelques années que ça jouait.
Ouais, je veux pas inventer des choses. Ça fait 10 ans, là, 2013. Ouais. Là, ouais.
Mais, tu sais, c'était, on a eu, bon, avant ça, on avait Left 4 Dead du côté des jeux vidéo. On a eu un paquet de films. On a eu, bon, Shaun of the Dead, ça, c'est même avant ça aussi. Mm-hmm. Ça faisait longtemps qu'on avait un intérêt marqué pour les zombies. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu disparu. Puis quelqu'un m'a raconté une histoire très intéressante récemment, disant que c'est axé sur les hauts et les bas de l'économie. En tout cas, on n'embarquera pas dans cette théorie-là, mais que l'intérêt pour les vampires alterne avec celui des zombies en fonction de la stabilité de l'économie. On pourra peut-être y revenir éventuellement, ouais,
ouais. Mais... Est-ce que ça fait trop de trucs de zombies qu'on a en peu de temps? C'est ça la question.
Ben, je pense que c'est ça la question. Je pense que c'est ça le point principal. Et là, on faisait un certain temps qu'on n'avait plus rien de zombies, puis on nous ramène ça, qui est une structure très classique. Dans le sens où on a des monstres, d'accord, ça c'est correct, je n'ai rien contre les monstres, mais là, on apprend que, surprise, dans le cas d'Apocalypse, il y a aussi des humains qui deviennent des monstres. Mm-hmm. Éthiquement parlant, moralement parlant, tout ça, c'est un peu cliché. Et ce qui m'a vraiment agacé, et je vais te laisser parler après parce que c'est un podcast à deux quand même, ce qui m'a vraiment agacé, c'est qu'on met énormément d'efforts pour nous présenter des personnages, qu'ils soient bons, qu'ils soient méchants, pour qu'on s'y attache. Et on met tous les moyens nécessaires pour faire ça, et ces personnages-là ne restent pas dans la saison. Disparaissent en un épisode, en deux épisodes, et tout l'intérêt qu'on pouvait avoir pour le développement des personnages s'évapore en dedans de 45-60 minutes. Ouais. Et on passe à la suite.
J'ai des contre-arguments pour toi.
Je t'écoute.
Pour l'argument du zombie, moi j'ai l'impression que mon sentiment par rapport à The Last of Us, c'est que c'est pas une série de zombies. Les zombies, c'est un prétexte,
ouais.
c'est un contexte. Ça aurait pu être bien d'autres affaires, mais dans le cadre d'un jeu vidéo, ça te prend quelque chose à tirer dessus là. Je caricature, puis jusqu'à un certain point, là je suis en train de jouer aux deux justement là, au deuxième jeu parce qu'on en reparlera plus tard là. Mais les zombies prennent de moins en moins de place dans la série de jeux, donc je présume qu'ils vont prendre de moins en moins de place dans la série télé également, mais c'est vraiment plus un contexte de la civilisation comme on la connaît s'est écroulée. Pourquoi? Fait que là, on balance un espèce de raison scénaristique assez facile puis assez convenue qui est une apocalypse de zombies, mais il faut que la civilisation s'écroule pour que cette histoire-là puisse se dérouler. Puis après ça, on s'intéresse pas tant aux zombies. Puis moi, c'est peut-être ce que j'ai aimé de cette série-là comparativement, par exemple, à The Walking Dead, où est-ce que j'ai l'impression que l'accent était vraiment mis beaucoup sur les zombies et moins sur les relations interpersonnelles. Puis moins sur des personnages nuancés, puis avec beaucoup d'interactions, puis une construction de personnages intéressante. Ça vient entrecouper aussi mon deuxième argument, là, par rapport au caractère éphémère des personnages qu'on croise. J'ai l'impression que ces personnages-là servent pas tant à se construire eux-mêmes, mais à construire les deux personnages principaux qui sont Joel puis Ellie. Si on prend l'exemple Tess, le premier personnage secondaire, disons, qu'on rencontre dans cette série-là, qui est c'est pas clair à savoir si c'est la femme de Joel quand on le retrouve 20 ans après le début de l'apocalypse, mais en tout cas, il forme un duo de contrebandiers assez efficace dans la zone de Boston. Là, c'est ça, on voit vraiment, c'est elle qui met en branle l'espèce d'opération pour prendre Ellie sous leur aile puis l'amener à un groupe qui serait peut-être capable de faire un vaccin avec son immunité. C'est elle qui pousse vraiment un Joel qui est plus réticent à prendre sous son aile une jeune fille, surtout qu'il y a un traumatisme lié à sa propre fille. Puis le spoiler alert, ben elle meurt dans les premières heures là, de l'épidémie. Fait que Tess, c'est ça, construit toute cette espèce de d'écosystème-là entre les deux personnages. Puis oui, après ça, elle meurt après, encore une fois, spoiler alert, elle meurt deuxième épisode. Puis on la reverra pas plus tard, mais même chose pour d'autres personnages tout au long de la saison. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'ils sont là pour eux-mêmes, mais ils sont plus là pour les deux personnages principaux, puis les construire eux et leur relation.
Ben, écoute, effectivement, ça a du sens ce que tu dis. Mais tu sais, je trouve quand même ça dommage que ça soit ça reste pas sur, par exemple, 3 ou 4 épisodes plutôt que 2. Puis je veux pas tomber trop dans les choses spécifiques, mais on a par exemple un personnage de méchant. Bon, Joel et Ellie arrivent dans une autre ville, j'ai oublié le nom exact, mais plus dans le Midwest. Et là, les espèces de groupes de rebelles ont renversé les autorités, ce qui restait des autorités fédérales américaines, qui est une espèce de la FEMA, mais jamais légalement pas la FEMA, là, qui est la FEMA, qui est l'agence pour gestion des urgences aux États-Unis, qui s'appelle dans la série la FEDRA, c'est subtil. mais ils peuvent pas être poursuivis, fait que c'est pas la FEMA. En tout cas. Et donc, on a la chef des rebelles qui a l'air de quelqu'un qui est gentil, qui est pas imposante, qui a l'air d'une madame belle ordinaire, mais qui en fait qui est super cruelle, qui assassine des gens quasiment pour le plaisir, en tout cas, ou qui fait assassiner en fait des gens quasiment pour le plaisir. Et là, je me disais, OK, ils vont rester là 3 ou 4 épisodes, ils vont peut-être être prisonniers, il y a une espèce de malentendu, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Et là, tu dis, OK, c'est des gens que, tu sais, moralement, c'est zone grise, puis tout ça, puis, tu sais, est-ce que parce que tu renverses une espèce de dictature, est-ce que toi, t'as pas aussi des risques d'être envers de toi-même être une dictature, tu sais, c'est... Tu sais, cette question-là, puis finalement, ah non, une espèce de Deus Ex Machina, soudainement, tu sais, et là, c'est comme, ah, ben, l'enjeu scénaristique est terminé, on passe à la suite. Ça faisait très jeu vidéo, et tu vas me dire, c'est normal, c'est une série basée sur un jeu vidéo, mais, tu sais, quand tu disais les codes sont différents, ben, tu sais, ça m'aurait pas dérangé que, parce que, autre divulgateur, si on veut, mais les gens qui ont joué au jeu le savent de toute façon. La première saison se termine avec la fin du premier jeu. À peu près, là. Là, tu hoches la tête, là, mais évidemment, on est dans un podcast.
Ouais,
mais bref. Et ça, moi, ça m'aurait pas dérangé que ça dure 2 saisons. Que c'est parce qu'il y a assez.
Ouais, il y avait pas assez, c'est ça aussi, c'est une critique que j'ai beaucoup lue sur les réseaux sociaux, justement, que c'était trop court, puis qu'il y avait des arcs narratifs, justement, qui étaient trop courts, puis que ça passait rapidement d'un arc narratif, justement, ouais, à un autre, mais le jeu est excessivement court, là, pour y avoir rejoué, justement, récemment, on dirait que ça m'avait pas traversé l'esprit, mais quelqu'un de bien motivé, là, pourrait le finir en une journée, là. Le jeu.
C'est qu'on parle de 6 heures, 8 heures, 10 heures.
Ouais, ouais. Puis, okay. Ben, à peu près, peut-être un 8 heures, là. Okay. Dépendamment à quel point tu veux fouiller un peu partout, puis à quel point tu meurs souvent, là. Mais, puis ce personnage-là, justement, auquel tu fais référence, là, la madame qui prend le contrôle de ces rebelles-là qui ont réussi à renverser, elle n'existe pas dans le jeu. Fait que, okay. Déjà là, c'est un ajout de plus sur l'histoire dans le jeu. Fait que, c'est un peu pour ils ont fait ce choix-là justement parce que cette séquence-là dans le jeu, dans cette ville-là, est très jeu vidéo justement, où est-ce que tu veux juste te promener, tu te caches, tu sais, qui est très interactif puis qui se traduisait peut-être mal à la télévision, donc ils ont décidé de créer cette trame narrative-là avec ce personnage-là pour compenser un peu. Mais c'est ça, c'est une critique que j'entends souvent, que c'est très court, puis que ça passe souvent du coq à l'âne, mais ils ont quand même déjoué ça en grande partie. Moi, c'est l'épisode 3,
oui,
avec l'histoire de Bill puis Frank. Pour mettre les gens en contexte, l'épisode 3, ça dresse le portrait de Bill, qui, avant l'épidémie de champignons, est un survivaliste joué par Nick Offerman, que les gens ont peut-être connu comme Ron Swanson dans Parks and Recreation. Et qui fait un genre de Ron Swanson encore, survivaliste, un peu conspirationniste, et au moment où ce que justement le gouvernement prend un peu le contrôle de toute la patente, ben lui, il se cache dans son espèce de bunker sous sa maison. Bref, il réussit à comme pas mal bien se débrouiller tout seul pendant plusieurs années à se bâtir une espèce de forteresse.
Oui.
Pour finalement tomber sur un autre personnage qui s'appelle Frank, qui tombe dans un de ses pièges, mais qui est pas un zombie. Et là, s'ensuit toute une histoire amoureuse entre deux hommes dans un contexte post-apocalyptique.
Oui.
Puis c'est vraiment une des plus belles histoires, je trouve, d'amour qui est transposée à l'écran. Là, mm-hmm. Une petite histoire, ma copine l'écoutait à moitié l'épisode parce qu'elle faisait autre chose en même temps, puis même elle, ça l'a ému, mais sans voir l'histoire au complet. Fait que t'sais, imaginez si vous aviez suivi l'épisode au complet. Là. Puis dans le jeu, Bill, c'est le personnage qu'on croise, on fait un petit bout de chemin avec lui, il nous aide à se trouver une voiture, puis après ça, on le revoit plus. Mais toute cette histoire-là, amoureuse avec Frank, oui, il y a des indices par-ci par-là pour quelqu'un qui s'est fouillé dans le jeu puis qui tombe sur des espèces de... Bon, mon chien encore. Sur des fragments de lettres. Ouais. Si on tombe sur des fragments de lettres, on peut un peu deviner cette relation-là, mais elle n'est pas clairement dite dans le jeu. Donc, tout ça, ça a été construit pour la série télé. Donc, ils ont quand même réussi à développer, à broder autour de l'os, là, si on veut. Là, je viens de faire un péroniste, c'est sûr.
Mais écoute, je suis entièrement d'accord que c'est une excellente construction scénaristique. Mm-hmm. C'est émouvant, c'est bien joué, il n'y a pas de clichés. C'est vraiment, c'est très beau, très touchant. Et je veux dire, je vais le divulgâcher, mais il meurt à la fin de l'épisode. Ouais. Ils ne sont plus là après.
Et mais ça a servi. Ça a servi parce que toute cette histoire-là, au final, le point de tout ça, c'est ça se retrouve dans la lettre justement que Bill laisse à Joel, parce que les deux se connaissent dans la série. C'est des personnages qui se sont côtoyés avant tout le long de l'apocalypse de zombies. Il lui laisse donc une lettre en supposant que c'est évidemment lui qui va le retrouver mort, là, qu'il n'y a pas d'autres personnes qui seraient capables. Puis il lui dit, pendant toutes ces années-là, je croyais qu'il fallait pas que je m'attache à personne, que c'est ce qui allait me faire survivre. Mais au final, tu sais, il faut cet attachement-là aux autres, il faut cette compassion-là pour les autres. Fait que tout cet épisode-là, oui, il dure un seul épisode, puis on les revoit plus après, mais ça sert encore une fois à bâtir le personnage de Joel, qui là va avoir une petite faille dans son armure face à Ellie, parce qu'il crée une distance pour pas se reblesser encore par rapport à ce qu'il a vécu avec sa propre fille. Là, oh, il va y avoir cette craque-là qui va se faire à cause de cet épisode-là.
Ouais. Mais encore une fois, je ne veux pas être là et donner l'impression que je fais exprès de picosser.
tu fais exprès de picosser.
Non, mais je veux dire, écoute, pour moi, ce n'est pas une mauvaise série. Je veux dire, j'en ai écouté de la mauvaise télé, toi aussi, certainement.
Ouais, ouais.
Il y en a des séries qui sont plates où il ne se passe rien pendant plusieurs épisodes, même une saison complète. Pas souvent, on se dit, ah oui, ça devient vraiment bon, on passe à la saison 3. Ouais. J'ai-tu le temps d'écouter?
Non, tu sais, à la limite, est-ce que c'est vraiment une critique que de dire « Merde, ça n'a pas duré assez longtemps? »
Ben, c'est juste que, comme je te dis, c'est que ça arrive une fois qu'on fasse un épisode, c'est contenu en lui-même, puis qu'effectivement, il y a une leçon de vie à la fin qui est comme « Ça vous prend quelqu'un dans votre vie parce que ça vous fait du bien, c'est important, tout ça. » Je suis d'accord, j'étais ému, tout ça, c'était très agréable. Mais le problème, c'est qu'ils font ça deux, trois, puis quatre fois après ça, de dire en un épisode, voici un gentil ou un méchant. Puis, ah, ben tiens, à la fin, il n'est plus avec nous. Fait que j'étais rendu presquement à la fin. Il y a un méchant dont on n'a pas encore parlé, qui est l'épisode, je pense, l'avant-dernier épisode ou quelque chose comme ça, que je l'ai vu. Puis, ah, mais là, on comprend qu'il n'est pas bien gentil. Puis, ah, moi, j'ai dit tout de suite, il va mourir. Il ne sera plus là à la fin. Et comme de fait, il meurt à la fin. C'est toujours un gag de dire, tu sais, est-ce qu'il meurt à la fin? C'est un peu ça.
Ah ouais.
Donc, c'est pas en soi, tu sais, si c'est arrivé une fois ou deux dans la série, ça m'aurait pas dérangé. Tu dis, OK, il faut que tu mettes ça dans un cadre spécifique et j'aime bien mieux qu'on me dise, t'as du budget puis du temps pour une saison ou deux saisons. Puis souvent, le problème, c'est que, ah, on a une saison qui fonctionne bien, on va en faire huit autres.
Mm-hmm.
Puis après trois, on n'a plus de scénario. Fait qu'on étire, on étire, on invente des affaires, ça n'a plus de bon sens. Là, tu dis, OK, faisons un peu comme les Britanniques. On donne de la place pour une saison, deux saisons. Puis, OK, là, ça dit, faut que je tasse mes affaires, faut que je, bon, je structure mes trucs. Mais là, c'était comme trop structuré, ouais. Trop tassé. On dirait qu'il disait, ah non, mais écoute, j'ai, il me reste encore 4 méchants, là, puis il me reste 5 épisodes. Qu'est-ce que je veux faire? C'est un peu ça ouais. aussi. Puis, effectivement, chaque fois que ça se produit, il y a une évolution des personnages, puis il y a un peu de progression, si tu veux, ou de, dans certains cas, de déchéance morale chez nos protagonistes. Mais,
ça aurait pu être plus fluide entre les épisodes pour qu'il y ait comme une espèce de meilleur lien, comme un...
Ouais, ben, tu sais, c'est surtout qu'après deux, trois fois comme ça, moi, je m'attache plus. Tu sais, je me dis, ah, c'est qui le méchant de la semaine? Tu sais, c'est un peu... Tu sais, il faisait ça dans le temps, dans les années 90, début des années 2000, souvent, c'était le... Tu sais, je suis en train d'écouter Stargate SG-1 depuis quelques mois. Puis souvent, c'est ça, c'est quoi l'enjeu de la semaine ou le méchant de la semaine? Ah, est-ce que c'est un... Tu sais, bon. Et à la fin de la 42 minutes plus tard, ben, il était vaincu ou nos héros se sont sauvés. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que... On revient à la cause départ. Ben, tu sais, je suis pas en train de dire que The Last of Us, c'est pas bon, puis que faut pas l'écouter. J'ai trouvé ça bon quand même, mais j'ai trouvé que ça... Non, il y avait de la place pour peut-être 5 épisodes de plus, 6.
Mais j'ai l'impression que c'est ça, que cette... Parce que là, faut pas oublier, il y a le deuxième jeu est beaucoup plus long. Moi, j'ai l'impression que ces écueils-là vont moins se retrouver dans... Ils ont déjà, en fait, confirmé que juste le deuxième jeu va faire au moins 2 saisons.
OK.
Là, je suis capable de le concevoir un peu plus. Fait que j'ai l'impression que ces écueils-là vont s'atténuer dans les prochaines saisons. Et ça me laisse l'impression aussi que la saison 1, c'était vraiment comme une espèce de taster's pack, genre de... Voici ce dont on est capable de faire. En quelques épisodes facilement digérables et attendez-vous, tu sais, comme on va attendre de voir si ça réagit bien, parce que c'est quand même un pari risqué là, d'adapter un jeu vidéo, là, on le sait, l'histoire est pas toujours ça s'est pas toujours bien passé pour ces
adaptations. C'est rarement bien passé, je te dirais.
Juste Naughty Dog, eux-mêmes, là, je veux dire, de Uncharted, le film, honnêtement, je l'ai même pas vu, puis ça m'intéressait pas, puis j'ai adoré le jeu, mais complètement l'inverse pour The Last of Us.
Écoute, on m'a dit, et ça c'est la rumeur qui court, que il y avait déjà 3 films qui étaient très, très semblables à Uncharted avec un certain Harrison Ford dans les années
80. Ah ouais.
Alors, t'en prends c'est ce que ça. T'en veux avec ça.
C'est ça. Non, mais je peux comprendre qu'ils ont peut-être voulu jouer très, 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 très prudemment pour cette première saison-là, puis que ça a donné ce que ça a donné. Mais j'ai confiance que dans les prochaines saisons, ça va aller. Ça va être plus structuré, mais on vient de dire que c'était trop structuré, là, mais dans le sens que c'est plus... ça va être moins compartimenté. Ah,
c'est ouais. Ça. Ah, excellent, excellent mot. est-ce que, d'après toi, il faut avoir joué à The Last of Us pour aimer The Last of Us?
Non.
OK.
Non, parce que c'est, comme je disais, c'est vraiment... C'est sûr qu'il y a quelques petits clins d'œil, là, mais c'est des trucs très nichés. Là. J'ai vu des gens sur Internet faire « Oh mon Dieu, elle a le même T-shirt que Ellie dans le jeu. » Ils ont reproduit exactement le même. Il faut que tu le saches. Là.
Ah ouais.
Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a des éléments comme ça qui sont construits sur le jeu. Fait que ceux qui ont joué... En fait, je vais reformuler ta question d'une autre manière. Est-ce que les gens qui ont joué au jeu peuvent écouter The Last of Us sans être déçus? Puis la réponse est aussi oui.
Okay.
Fait que c'est ce que je trouve impressionnant, c'est que les deux publics vont trouver leur compte dans cette série-là.
Ben écoute, je suis content de l'entendre. Donc, j'imagine qu'évidemment, tu recommandes The Last of Us version télé.
Juste pas pour les jeunes enfants, parce que c'est vrai que les bébites font peur.
D'ailleurs, les bébites disparaissent. Je pense que les 2-3 derniers épisodes, il n'y en a plus.
Il y en a plus tant que ça, des bébites. Mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est une question de budget, mais en même temps... C'est ça aussi, comme je disais, c'est un prétexte, l'apocalypse de zombies, parce qu'au final, plus le jeu avance, plus tu réalises qu'en réalité, les zombies, c'est les autres humains. Et c'était voilà, nous tout ce temps.
C'est ça. les vrais monstres sont les amis qui nous sont fait en chemin. C'est ça qu'on dit, l'expression.
C'est un peu ça, là. C'est ça dans la série aussi, là. Fait que ça
démontre c'est toujours un peu ça aussi. Hein.
Ouais.
En même temps, on ne peut pas tout réinventer tout le temps. Il faut que s'appuyer sur des bases solides et c'est une base solide. Mm-hmm. parmi tant d'autres. Ben écoute, moi aussi, comme je te disais, je recommanderais la série. J'ai des bémols, évidemment. Là, vous m'avez entendu en long et en large. Mais ne serait-ce que si ça vous prend votre dose de Pedro Pascal, sans trop l'objectifier, évidemment, mais je pense que c'est un bon acteur. C'est un bon acteur, et je pense surtout que je l'ai vu en entrevue, puis tu sais, c'est pas quelqu'un qui est arrogant. En tout cas, s'il est, il cache très bien. Je pense qu'il y a vraiment du plaisir à faire ça. Et je pense qu'il y a du plaisir, qu'il est content qu'on lui donne l'opportunité de faire ça.
Ça fait un bout qu'il roule sa bosse, là. Ouais. Il a fait de la figuration, il a joué dans des petits rôles mineurs. Son vrai rôle qui a fait qu'il a percé, c'est Game of Thrones, là. Peut-être Narcos un peu avant, mais ça s'est fait assez successivement, là. Mais ça fait un bout, là.
Oh, et puis là, tu sais, donc, comme je disais, il y a du gros fun avec Mandalorian aussi, là. Ouais. Donc, puis d'ailleurs, pendant un certain temps, on a eu double portion de papa de remplacement chaque semaine.
Comme je te disais, à un moment donné, j'ai dû faire du rattrapage et de Mandalorian et de The Last of Us, et je l'avais appelé le Pedro Pascalouza.
Bon, ben écoute, avant que ton chien
défonce la porte,
détruise quelque chose. Merci Jean-Philippe, merci d'avoir été là avec moi pour parler de Last of Us. On va se revoir évidemment, se reparler bientôt. J'imagine avant, bien sûr, saison 2 de Last of Us. Peut-être pour Mandalorian saison 3.
Ça, je m'en allais dire, en fait, au début du podcast, tu disais que c'était un événement exceptionnel. Puis là, je pensais que tu allais dire que c'était parce qu'on se parlait pas de Star Wars.
Ben aussi, mais j'ai déjà fait ce gag-là. Donc, à un moment donné, on peut pas toujours le faire. Ben oui, effectivement, Mandalorian saison 3 qui est encore en train de se dérouler. Rapidement, on ne fera pas une heure là-dessus, mais est-ce que tu apprécies cette saison 3 de Mandalorian?
C'est encore trop tôt.
OK.
Je ne sais pas encore, je suis partagé.
OK. Ben écoute, je dirais que, en tout cas, en vue du dernier épisode, je me pose des questions. J'aime ça, mais j'ai hâte de voir où ça s'en va. Mais bon, regarde, on se plaindra pas du divertissement qui nous est offert, généralement de bonne qualité. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire.
Des fois, trop, c'est comme pas assez. Mais ça, c'est un autre débat qu'on a probablement déjà eu aussi.
Voilà. Écoute, merci encore d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Je prends quelques secondes, je vous parle de notre Patreon. Si vous avez deux options, c'est pour évidemment nous encourager, entre autres pour aider à faire embobinage. Si vous avez deux paliers, 2$, 5$, si vous prenez celui à 5$, vous avez un mois à l'avance les épisodes en primeur de rembobinage. En ce moment, l'épisode en primeur, c'est notre critique du film « Seven » de David Fincher, et évidemment, une fois par mois, vous aurez un nouvel épisode comme ça, qui sortira plus tard, bien sûr, pour tout le monde, mais en attendant, c'est pour les gens qui sont abonnés au palier de 5$. Je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook du podcast et à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca. Vous allez sur le site, c'est très, très simple, les instructions, et chaque samedi, vous avez l'ensemble des contenus, y compris les épisodes de podcast. Jean-Philippe, ben, je te dis merci et à bientôt!
À bientôt!